Bonsoir tout le monde. En général, avant de commencer, je demande à tout le monde de faire une petite intériorisation. Fermer les yeux et de se syntoniser sur son corps, ce qui se passe dans notre corps. D'une façon simple, sans support, d'être dans son intériorité. Quelques minutes, pas plus. Une petite intériorisation. Quand on ferme les yeux, c'est un monde qui surgit, hein? Un monde de pensée. C'est pas facile de faire le silence intérieur. Bon, ça c'est une autre question. Alors je me présente, je suis médecin de formation, j'étais médecin de formation, j'ai quitté ce monde il y a plus de 8 ans. Je suis ce qu'on appelle médecin fondamentaliste. Il faut pas faire la... Il faut nuancer, ce n'est pas fondamentaliste dans le sens religieux du terme. C'est avec des doctorats en sciences fondamentales, endocrinologie et immunologie. Donc j'ai fait une petite synthèse qui est la neuro-endocrino-immunologie, qui est une science qui s'actualise maintenant. C'est à la mode de parler de cette science et qui prend beaucoup d'ampleur. J'ai fait un travail intéressant dans la synthèse entre les sciences cognitives, la physique quantique et ce qu'on appelle le soufisme. Qu'est-ce que c'est que le soufisme? Alors, déjà, il faut faire la différence énorme. Il n'est pas lié à une religiosité, au-delà de la religion. On n'est pas dans un système religieux, pour être d'accord, dès le point de départ. Parce qu'on dit souvent le soufisme à l'islam. Certes, il y a des données de la transcendance islamique, mais ce n'est pas un lien direct, c'est-à-dire un lien dans l'essentialité, mais pas un lien dans la mouvance extérieure, ce qu'on appelle l'exotérisme. Le soufisme est très ancien comme impulsion catalysatrice de l'être. On peut dire que le soufisme est né avec l'être humain dans sa structure spirituelle connexionnelle. Donc c'est ça. Je vais essayer de définir les concepts de l'approche matricielle en rapport avec ces trois données, la physique quantique, la biologie, la physiologie, la neurophysiologie et les données du soufisme. Et voir un peu cette mouvance, comment elle va se structurer, qu'est-ce qu'elle va nous apporter au niveau de notre vécu. C'est important parce que l'être humain est structuré selon trois valeurs essentielles. Sa structure physique, qui est une image projetée. Qu'on appelle un hologramme, le corps est une image. On va le voir, on va le démontrer. Ce corps, on tient tellement à ce corps physique, mais ce n'est qu'une image. C'est une réalité projetée dans un monde virtuel. On est dans une structure virtuelle. On va essayer de démontrer ces concepts. Et déjà, on va prendre conscience de cette réalité qu'on est une image projetée. Une image d'une réalité qui n'est pas de ce monde. Et la science démontre tout ça. Simplement, la science passe d'une façon inaperçue parce qu'elle ne veut pas donner des conclusions rapides, parce qu'un chercheur dans son laboratoire, s'il donne des conclusions de ce genre, il sera écarté. C'est pour ça, moi j'ai quitté ce monde, je me suis libéré, donc je peux donner des conclusions de ce genre. Et la médecine, justement, les sciences médicales nous ont aidés à prendre conscience de cette réalité. La première réalité qui nous concerne, c'est le facteur temps. Tout à l'heure, on a parlé du temps. Un facteur extrêmement important. On voit qu'il est en train d'être accéléré. Il y a une accélération intense. On vit des événements, mais d'une façon complètement différente. Le jour, c'est pratiquement quelques heures. on vit une accélération temporelle. Ce n'est pas subjectif, c'est même objectif, la science le démontre. Même le spin de la Terre est accéléré. Et les sages ont comparé ce mouvement à un petit enfant qui court. Quand il s'approche de sa mère, il court encore plus vite. Ça veut dire que notre univers est en train de rentrer dans une phase particulière. Il est en train de rentrer dans la phase de la rencontre avec la source, la mère, la matrice primordiale. Celle qui lui a donné naissance dans sa structure réelle et non pas dans sa structure voilée. Donc, cette accélération est un phénomène objectif que la science démontre. On n'a pas le temps de le détailler. Et c'est un phénomène qui va finaliser une réalité, à savoir que notre univers est en train d'évoluer vers la rencontre de la source. Qu'est-ce que c'est que la source? Au niveau temporel, c'est l'instant où tout a été unifié. Tout a été complètement unifié dans une harmonie appelée interdépendance en physique quantique et interconnexion. Tout était connecté, complètement rassemblé. Le temps égale zéro. Le T0, c'est ça la source, c'est le point primordial au départ. Mais la science n'a pas pu arriver par ses équations jusqu'à ce temps zéro. Les scientifiques, avec leurs équations, ils ont essayé de reproduire, ils sont en train de le faire maintenant en Suisse, là, avec l'accélérateur des particules, avec la particule de Higgs. Et c'est une réalité maintenant. Ce temps zéro est un temps qui correspond à la source, où tous les événements étaient unifiés. Mais la science n'a pas pu mettre en évidence ce temps zéro. Il s'est concentré sur un temps qu'on appelle le temps de Planck, qui est de l'infiniment bref, qui est pratiquement nul, mais quand même, c'est un temps. Il est de 10 puissance moins 43 secondes. C'est inconcevable. C'est-à-dire on est remonté à un temps tellement petit, mais qui n'est pas zéro. Ça, c'est important de le sentir dans notre ressenti intérieur. Pourquoi ils n'ont pas pu arriver jusqu'à ce temps? On peut se demander. Parce qu'il faut voyager dans ce laps du temps à travers la conscience. Et non pas à travers les équations qui sont une extériorisation de la conscience. Ce laps de temps qui est entre T0 et T10 moins 43 secondes, c'est de l'infiniment bref. Et c'est ça la transcendance. Qu'on définit d'une façon métaphysique la transcendance, c'est ce laps de temps. C'est de l'infiniment bref. Et à travers cet infiniment bref, on peut voyager à travers notre conscience et rentrer dans notre source, faire l'expérience de la source. C'est-à-dire un espace où tout a été unifié, un espace où tout a été harmonisé avant l'explosion de Big Bang, un espace-temps où tout était unifié dans une harmonie formidable, un espace. Ça veut dire que c'est ce temps infiniment bref qui est de 10 moins 43 secondes est un temps réel que les physiciens ont structuré. Mais à ce temps correspond un espace. La théorie temporo-spatiale, à chaque espace il y a un processus temporel qui le génère et à chaque temps il y a un espace qui va le structurer. Il y a un espace qui est de l'ordre de 10 puissance moins 99 centimètres cubes. C'est de l'infiniment petit, inconcevable aussi. Et simplement, c'est un espace qui va nous intéresser. Dans les traditions, on parle de l'œuf cosmique. Mais ce n'est même pas un point cosmique. Ce n'est même pas un point virtuel. Quand j'ai fait une lecture de cet espace-temps, par analogie, je me suis dit, mais dans la tradition soufie, on parle des 99 noms divins. Mais ce n'est pas un hasard. C'est une analogie formidable. Ces 99 noms divins ont structuré les univers manifestés. Nous, on parle des matrices, pas plus de noms divins, parce que le nom divin, ce concept, est trop chargé par la religion. Les religions ont chargé les concepts. Quand on parle de Dieu, c'est un mot trop chargé. Tout le monde utilise l'imam, le rabbin, le prêtre, selon leur structure, selon leur système, selon leur code, endoctriné, politisé, dogmatisé à fond. Dans la structure qu'on essaye de mettre en place, c'est la liberté intérieure. Aucun dogme, aucun intermédiaire. Il y a un sutra magnifique qui le dit, il est plus proche de vous que votre veine jugulaire. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit. Il est en vous, plus proche de vous. Et justement, il va épouser cet espace de Planck qui est de 10 moins 33 cm. 10 puissance moins 33. L'être est en nous. On n'a pas besoin de le restructurer par une discipline que les religions nous ont imposées. La religion, qu'est-ce qu'il a fait? Elle nous a séparés, divisés en permanence. Toutes les guerres ont été l'œuvre magistrale des impulsions religieuses. C'est un constat, on ne critique pas. Moi, je crois que tous les prophètes n'ont jamais structuré de religion. Ceux qui sont venus après. Alors là, pour voir un petit peu, au sein même d'une structure, que ce soit l'islam ou le christianisme, on voit des équipes, des fractions, qui se sont entretués en permanence. Ou est-ce qu'il y a une impulsion divine dans ces structures? Je pense pas. Donc, les mots sont chargés sur le plan conscience collective. Quand on parle de Dieu, des noms divins. Donc, dans l'approche matricielle, on a changé les concepts pour que la surcharge psycho-affective, collective, ne soit pas intégré dans un mot. Le mot est vivant. Le mot est une entité vivante. C'est une hormone. Elle peut accélérer un processus neuro-hormonal. C'est pour ça que je dis, je me suis séparé du diagnostic. Avant, les gens venaient me voir en tant que médecin. Ils avaient des symptômes. Ils sortent avec des maladies. Et vous voyez là, le grand danger de cette approche. Le corps, qu'est-ce qu'il est le corps? C'est une mouvance énorme, c'est un fleuve hyper changeant. À chaque instant, il n'est pas le même. Il y a des milliards de réactions biochimiques par minute. C'est-à-dire, c'est un changement en permanence. Le corps est dans sa nature quantique, c'est-à-dire hyper changeant, et il est complètement dans sa structure de contiguïté, de transformation en permanence. La médecine n'est pas quantique. La médecine fixe les événements. Le diagnostic, c'est une fixité temporo-spatiale qui va devenir conscientisée et le patient va la prendre comme étant une réalité absolue. Souvent, le malade dit « j'ai telle chose ». Il s'identifie à la maladie. Qu'est-ce qu'il fait? Il entretient d'une façon quantique en permanence le jeu et il va se piéger dans cette structure. Le corps va changer, il essaie de changer. La conscience l'oblige à se restructurer dans ses phases maladives en permanence. Vous voyez, c'est un drame. Je me suis dit, c'est une responsabilité. Je suis en train de jouer un rôle inverse de ce que j'ai appris. Donc je vais quitter ce monde. Et c'est pour ça que j'ai quitté le monde de la médecine. Je ne réponds plus aux critères. Je n'ai pas voulu jouer le jeu de l'hypocrisie tout en étant médecin, faire autre chose. Je l'ai fait à un certain moment, j'ai pas pu, j'ai quitté ce monde. Et c'est pour ça que j'ai développé cette approche qu'on appelle l'approche matricielle. Pourquoi matricielle? Parce que je vois quand même que la phase de cette accélération temporelle, la fin d'un cycle, est synonyme d'une réactualisation de l'énergie cosmique yin de la femme, la matrice. Mais on provient tous d'une matrice, la mère. Durant un voyage fantastique qui est celui de cette petite cellule qu'on appelle l'ovule. Et c'est une cellule magnifique, l'ovule. C'est la cellule qui a fait l'expérience de la force gravitationnelle. La chute. Pendant l'ovulation, la cellule, l'ovule a chuté. Elle a subi l'attraction terrestre, c'est-à-dire la force gravitationnelle, qui est une force hyper intéressante, on va la voir, parce qu'elle va emmagasiner une information subtile d'un autre genre. Par contre, le spermatozoïde, lui, il est animé d'une force cinétique électromagnétique. Il a une information plus dans la sphère du voile. On va voir comment c'est structuré. Et durant cette rencontre, durant ce voyage, qui se fait dans une matrice, dans un espace, la matrice est un espace, il va y avoir une énergie qui est donnée par l'ovule et une information donnée par le spermatozoïde. L'ovule donne l'énergie matière, l'énergie réelle. Le spermatozoïde donne l'information. Et une matrice, c'est un lieu, c'est un espace où il va y avoir un voyage, une actualisation des événements. Et durant ce voyage intra-utérin, il y a eu un développement fœtal très intéressant. Durant ce voyage, le fœtus a subi des changements, des transformations, une évolution qu'on appelle l'évolution phylogénétique. Et là, j'ouvre une parenthèse extrêmement importante pour dire qu'on n'est pas dans le néo-darwinisme, on est dans une structure nouvelle qu'on appelle matricielle. Je vous explique la différence. C'est pas que le fœtus est passé par des phases animales, non. Le fœtus était à l'écoute des matrices exogènes, spatiales, qui lui redonnent, s'il en a besoin, des informations du monde animal. Ça ne veut pas dire qu'on était des animaux, loin de là. Mais si on a besoin d'une information d'un mammifère ou d'un monde animal particulier, on va actualiser une matrice qui correspond à cette information. Parce que les matrices peuplent l'espace. Et justement, à l'intérieur de l'utérus, il y a énormément de matrices qui sont des matrices maternelles, paternelles, qui sont des matrices avant même la conception, engendrées par les pensées du père et de la mère, et qui vont se nicher dans cet espace qu'on appelle l'utérus. Et il y a des matrices qui sont en rapport avec les mondes antérieurs, avec la phylogénèse, parce que le fœtus va récapituler l'évolution de toute la structure réelle en 9 mois. Ça veut dire, matriciellement, il va vivre des états antérieurs, mammifères, reptiles, tout ce qu'on veut, mais pas au niveau effectif, matière, mais au niveau informationnel, par ces espaces, par ces matrices qui sont logées dans la matrice maternelle. Et il peut y avoir même des matrices exogènes à la mère, à l'extérieur. Tant qu'il y ait un espace et une énergie information, il peut y avoir une interférence au niveau matriciel. Donc, la source pour nous est une matrice unicitaire. Cet instant T0 que les physiciens n'ont pas pu objectiver, c'est la source. On lui donne un nom dans l'approche matricielle. On dit matrice unicitaire. Il est unique. C'est une hypothèse. La matrice qui a engendré tout le monde phénoménal, tout le monde existentiel est unique, unicitaire. Il n'y a pas une autre matrice. C'est-à-dire qu'on est dans l'unicité. C'est ça le principe de l'unicité. Mais pour comprendre l'unicité, mes chers amis, il faut la structurer au sein de notre conscience. Il faut la structurer biologiquement au sein de notre cerveau. Notre cerveau n'est pas structuré dans l'unicité. Moi, on ne peut jamais comprendre l'unicité. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est structuré selon trois cerveaux qui ne sont pas en harmonie. Le reptilien, qui est le cerveau, l'archéocéphale, qui est en rapport avec les instincts de survie, qui s'actualise au moment de la faim, de la soif, de l'envie sexuelle, de la procréation, les instincts de base, avec un autre cerveau qui est lui, le paléocéphale, le limbique, qui est le cerveau des automatismes, le cerveau des réflexes, de la mémoire, de l'apprentissage, de l'éducation, de tout le système éducatif qu'on a intégré, qu'on a suivi pendant des années et des années. Depuis que l'enfant, le petit enfant de 7 ans, on le réveille à 7 heures du matin, on va à l'école pour apprendre. Qu'est-ce qu'il va apprendre ? Il va apprendre à rendre son cerveau rigide, dans l'état de non-plasticité, par accumulation d'un savoir. On va le programmer, le robotiser. C'est-à-dire, on va le saturer, on va saturer son cerveau limbique, à tel point qu'il va devenir un automate. Énormément de bourrage de crâne, d'apprentissage. Aucune possibilité pour que cet enfant soit dans l'éveil. Qu'est-ce que c'est que l'éveil ? C'est une structure neurophysiologique, c'est pas métaphysique. C'est l'intégration du cerveau préfrontal qui va s'harmoniser, qui va harmoniser la totalité des trois cerveaux. C'est ça l'harmonie, la paix, l'unicité. Tant qu'on n'a pas structuré l'unicité d'une façon neurophysiologique, on ne peut jamais comprendre l'unicité. On peut méditer, partir dans les... faire tout ce qu'on veut, faire des soirées dans des églises, dans des mosquées. La religion n'a pas harmonisé les trois cerveaux. Par définition, quand on harmonise les trois cerveaux et quand on va actualiser le préfrontal, il va y avoir une harmonisation. Et on peut comprendre l'unicité, on ne va pas se structurer dans la séparabilité. L'autre est différent de moi. Je vais le rejeter. Il n'a pas les mêmes principes, la même croyance. Je le rejette. Ça, c'est une pensée limbique, une pensée automatique, une pensée structurée dans la croyance, dans la rigidité et dans le rejet. Et on peut voir énormément de pensées limbiques à la télévision, les politiciens, actualisation des pensées limbiques, des croyances. J'ai un programme. Je vais le réaliser, le concrétiser à travers les automatismes. Et je vais structurer les automatismes au sein même de la population. Ça veut dire qu'on est dans le culte du cerveau limbique, de l'apprentissage des automatismes. On peut retenir ce mot, le cerveau des automatismes. On va devenir des automates. Aucune possibilité pour harmoniser notre totalité. La globalité n'est pas touché par le limbique. Le limbique fragmente, divise, sépare pour qu'il puisse comprendre. Il est rigide parce qu'il est éduqué à ne croire qu'à telle chose. Vous voyez que tant qu'on n'a pas structuré l'harmonie des trois cerveaux, on ne peut pas dire qu'on peut comprendre l'unicité. Mais on va supposer qu'on est dans cette structure unicitaire pour avancer. La matrice unicitaire, c'est l'impulsion de l'essentialité dans sa nature non manifestée et qui a engendré tous les univers manifestés. C'est l'unique qui devient multiple par sa propre nature. Ah, ici, un facteur énorme de non-séparabilité. C'est pas Dieu est ailleurs et sa création est ailleurs. Il est lui-même l'unicité, c'est-à-dire le non-manifesté et le manifesté. Il y a deux matrices principales dans le soufisme qui dit Ad-dahirul batin, Ad-dahir, le manifesté, Al-batin, le non-manifesté. C'est ça l'unicité. Donc les créatures, c'est une émanation de la source. C'est l'être dans sa mouvance manifestée. Mais tant qu'on n'a pas structuré les outils biologiques dans notre cerveau, on ne peut pas comprendre cette réalité. Notre éducation nous oblige à être dans une croyance. Christos, le principe, le Verbe, créateur, l'Esprit de Dieu, on l'a cristallisé dans une croyance. La lumière mohammedienne aussi cristallisée dans une croyance. Ces êtres, ces êtres, des archétypes qui ont nourri la conscience réelle de l'homme, mais après l'homme a déformé le message par des intérêts politiques, économiques, culturels et tout ce qui s'ensuit. Donc, la nécessité de se séparer de tout ça, de structurer l'harmonie des trois cerveaux. Après, on peut comprendre la nature divine. La nature divine impose en douceur une structure harmonieuse physiologique. Il lui faut un substratum neurophysiologique pour qu'elle puisse se manifester l'unicité. Elle a besoin de ce substratum. Par conséquent, notre réalité doit s'harmoniser. Notre cerveau, qui est structuré selon trois valeurs, une trilogie, on retrouve cette trilogie partout. Trois cerveaux, trois consciences, trois matières. On retrouve partout ces données. L'archétype 3 est très important. C'est l'archétype de notre univers. Notre univers est structuré selon cet archétype, le nombre 3. Comment il est apparu, notre univers, selon cette structure trilogique? Quand j'ai fait une petite analyse selon ce volume de plan de 10-99, et quand j'ai fait le passage analogique avec les matrices principales, qui sont les 99 noms divins, j'ai remarqué que dans ces 99, il y a 6 qui sont dans la structure qui peuvent ramener ce non manifesté vers le manifesté. C'est-à-dire ces œuf cosmique qui était non manifesté, qui était immuable, qui était non changeant, éternel, il est autosuffisant par lui-même, à travers lui-même, en lui-même. Il n'a besoin de rien. Qui le pousse à rentrer dans la manifestation? Ah, question difficile. Mais quand j'ai fait une petite analyse sémantique et vibrationnelle, j'ai trouvé qu'il y a 6 matrices qui l'ont propulsé, on appelle ça le moteur cosmique, qui l'ont propulsé à sortir dans le manifesté et à se cristalliser dans la forme phénoménale. Et si je prends les 99 et j'enlève 6, ça fait 93. Et si je fais une sommation réductionnelle pour faire sortir l'archétype, 93 c'est 12, 9 plus 3, 12, 1 plus 2, 3. Donc notre univers est structuré d'une façon trilogique à travers le moteur cosmique qui lui a donné naissance, dans un processus qu'on peut comprendre de passage de trou noir vers le trou blanc à travers le trou de verre. Je vais détailler un petit peu ce passage. On peut dire que notre univers provient d'un trou noir. C'est une hypothèse qui commence à se vérifier maintenant. Prends l'habitude d'un petit... qui se vérifie de plus en plus. Et on peut dire que notre univers provient d'une structure temporo-spatiale qui, au départ, était dans sa nature non manifestée. J'ai agrandi un petit peu, c'est ça le volume de Planck qui est de 10 puissance moins 99 centimètres cubes, c'est de l'infiniment petit. J'ai agrandi. Parce qu'il y a ici 99 matrices principales qui structurent tous les univers manifestés. Et dans ce brassage primordial, il a fallu une force énorme pour faire sortir ce non manifesté vers la manifestation. C'est comme le trou noir qui commence à se condenser, la mort d'une étoile qui commence à se condenser sur elle-même, se condenser, se canaliser et sortir dans un autre univers. Notre univers a vécu les mêmes événements. C'est-à-dire, à travers ce volume de plans, et c'est un phénomène cyclique, on le vit à chaque instant, même au niveau cellulaire, on le vit à chaque instant. Et ce volume de plans, il va se condenser à l'image de l'étoile, et les processus vont se canaliser. Il faut avoir une image, c'est l'accouchement, le fœtus, la matrice fœtale et la matrice maternelle, l'hypercontraction, le passage dans un canal et la sortie vers un autre univers. Si on pose la question, par exemple, à une cellule qui a vécu à l'intérieur de la matrice, comment c'est à l'extérieur? Aucune idée. Mais elle va croire que toutes les contractions, le passage au niveau du canal, c'est de la souffrance. Mais quand le fœtus sort, c'est un univers tellement, tellement grand, qui n'a rien à voir avec les événements qu'il a vécu au moment de son passage. Et c'est ça ce qu'on appelle le trou blanc, c'est la sortie vers un autre univers. La mort, on vit les mêmes événements pendant le passage, pendant la mort. La mort, c'est une hypercontraction intérieure, une hypercondensation pour chasser l'essentialité, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'âme du corps. Et cette âme va se canaliser